Évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 34. Jésus dit toutes ces choses aux foules en parabole. Et sans parabole, il ne leur disait rien, en sorte que fut accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je proférerai des choses qui ont été cachées dès avant la fondation du monde. » Alors, ayant congédié les foules, il entra dans la maison. Et ses disciples vinrent à lui, disant « Expose-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et lui, répondant, leur dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, et le champ, c'est le monde, et la bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du méchant. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, et la moisson, c'est la consommation du siècle, et les moissonneurs sont des anges. » Comme donc l'ivraie est cueillie et brûlée au feu, il en sera de même à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché, et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Encore, le royaume des cieux est semblable à une seine jetée dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes. Et quand elle fut pleine, ils la tirèrent sur le rivage et s'asseyant, ils mirent ensemble les bons dans des vaisseaux et jetèrent dehors les mauvais. Il en sera de même à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes. Ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Ils lui disent, « Oui, Seigneur. » Et il leur dit, « C'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. »
Après avoir enseigné selon les trois paraboles du royaume des cieux considérées tout à l'heure, la parabole de l'ivraie, la parabole du grain de moutarde et la parabole du levain, voici, il est dit du Seigneur Jésus au verset 34, il dit toutes ces choses aux foules en parabole, et sans parabole il ne leur disait rien. Dans l'évangile selon Marc, il est dit ceci, que toute la foule était à terre sur le bord de la mer, et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles. Et il leur disait dans son enseignement, écoutez, voici un semeur sorti pour semer. Le Seigneur est présenté comme étant celui qui enseigne dans cet évangile selon Marc. Dans cet évangile, selon Marc, le Seigneur Jésus est le serviteur, plus le parfait serviteur, il est le serviteur prophète. Et comme prophète, il enseignait de la part de Dieu. On a vu hier après-midi qu'il était parlé à cette reprise de cet enseignement de notre Seigneur dans ce second évangile. Dans le premier passage, en Marc 1, il est écrit, étant entré aussitôt le jour du sabbat dans la synagogue, il l'enseignait, et il s'étonnait de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et puis, nous avons un troisième passage, le chapitre que nous venons de lire, le verset que nous venons de lire, au chapitre 4, il leur enseignait beaucoup de choses par les paraboles. Et nous pourrions suivre le cours de l'évangile pour arriver à la septième occasion où nous entendons le Seigneur enseigner. C'est au chapitre 12, au verset 35, « Comme il enseignait dans le temple, Jésus répondit et dit, « Comment dis-je, scribe, que le Christ est fils de David ?» Un peu plus loin, il leur disait, « Dans son enseignement, gardez-vous des scribes. » Le Seigneur est donc celui qui enseigne, le prophète au-dessus de n'importe quel autre prophète. Il est le prophète par excellence, parlant de la part de Dieu, enseignant de la part de Dieu. C'est ce que le deuxième évangile, l'évangile du service parfait de notre Seigneur, nous communique. Dans notre chapitre 13 de l'évangile selon Matthieu, il nous est dit ceci, que Jésus, sans parabole, ne leur disait rien. Et c'était un accomplissement de la prophétie du psaume 78, un psaume d'Asaph, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par le prophète, disant, « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je proférerai des choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. » Nous lisons maintenant ce passage en son origine du psaume 78. Au psaume 78, un psaume d'Asaph, au verset 2, il nous est dit ceci. Psaume 78, un psaume pour instruire d'Asaph. Prête l'oreille à ma loi, mon peuple, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois que nous avons entendus et connus et que nos pères nous ont racontés. Nous ne les scellerons pas, nous ne les cacherons pas à leurs fils. C'est donc un psaume d'Asaph, mais Asaph parle visiblement de la part de l'Éternel. Prête l'oreille à ma loi, mon peuple, c'est l'Éternel qui parle, c'est l'Éternel. Asaph ne fait que de transmettre cette exhortation de l'Éternel. Prête l'oreille à ma loi, la loi de l'Éternel, c'est pas la loi d'Asaph. Prête l'oreille à ma loi, mon peuple, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche, la bouche de l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Et alors, nous en avons la preuve que c'est visiblement l'Éternel qui parle, prophétiquement, c'est le Seigneur Jésus lui-même, ce qui nous est dit dans notre passage. Le Seigneur parlait en parabole, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par Asaph, pas seulement le psalmiste, mais le prophète, conduit par l'esprit prophétique, il a été amené à parler de quelqu'un d'autre que lui-même, de quelqu'un qui viendrait sur la terre, le Seigneur Jésus lui-même. J'ouvrirai ma bouche, dit le Seigneur en parabole, je proférerai des choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. Nous avons donc là une citation qui met en évidence ce grand fait que ces paroles prophétiques du livre des psaumes ne concerne pas nécessairement l'auteur du psaume, mais quelqu'un d'autre, la glorieuse personne du Seigneur qui allait venir sur la terre. Et puis alors, après avoir congédié les foules, le Seigneur entre dans la maison et là, il expose à ses disciples, répondant à leurs désirs, il leur expose la parabole de l'ivraie du champ.
Encouragement pour nous à procéder de cette manière. Il y a beaucoup d'illustrations dans la parole. L'Ancien Testament, nous le rappelions hier, est rempli de ces types. Des paraboles aussi que nous trouvons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, dans l'enseignement du Seigneur ou ailleurs. Mais comment les comprendre? Eh bien, les disciples nous donnent l'exemple ici. Ils s'adressent au Maître lui-même. Expose-nous, explique-nous la parabole de l'ivraie. Nous avons bien des choses à apprendre et pouvons nous reporter à de l'aide qui nous est donnée par des conducteurs qui ont écrit, qui nous ont fourni des précieux écrits qui nous ont été laissés et auxquels nous pouvons recourir. Mais ne manquons pas de nous adresser au Seigneur. Le psalmiste disait, psaume 119, « Ouvre mes yeux, je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. » Celui qui a écrit la parole peut aussi l'expliquer. Celui qui a prononcé cette parabole est disposé à l'expliquer à ses disciples. C'est un peu le pourquoi il disait à ses disciples, « À vous, il est donné de comprendre. » Mais encore faut-il s'y intéresser, lui le désirer et lui poser la question. Alors, c'est une prière à laquelle le Seigneur est toujours prêt à répondre. Et nous avons cette parabole. Sans doute, si les disciples avaient posé la même question au sujet des autres paraboles, nous aurions aussi la réponse. Il a été permis que ce soit cette parabole-là qui nous soit expliquée parce qu'elle contient des clés pour comprendre les autres. Ce qu'est la semence, ce qu'est le semeur lui-même, le Fils de l'homme, et ce qu'est l'ivraie, qui est l'ennemi, le diable, et puis aussi à quoi correspond la moisson. Nous avons donc là, de la bouche même du Seigneur, l'intelligence donnée pour appliquer ces explications, les introduire dans la parabole et la comprendre de cette manière. Et le Seigneur est toujours prêt à nous exposer, à nous aider à comprendre ce qui est difficile dans la parole de Dieu.
Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons attentifs encore à sa parole et que nous comprenions. Alors quand on a lu ces trois paraboles, celle de l'ivraie, du grain de moutarde et du levain dans la pâte, on pourrait peut-être être un peu découragé et se dire, voilà, tout tombe, le mal grandit, l'ennemi agit dans le champ pour qu'il y ait de l'ivraie mélangée avec la bonne semence, il y a cet arbre qui devient quelque chose que le Seigneur ne pourra plus supporter, il y a le levain qui fait lever toute la pâte. Voilà, tout cela c'est décourageant. Mais quand on regarde l'explication du Seigneur, on s'aperçoit que l'ennemi n'a pas le dernier mot. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. C'est lui qui va à la fin tout régler. Et quand on lit dans la parabole de l'ivraie ce que dit le Seigneur, dans l'explication, il se présente comme étant le Fils de l'homme, celui qui est venu sur cette terre. Et quand on voit ce mot, ce titre du Seigneur, le Fils de l'homme, on pense à la croix du Seigneur, ce qu'il a fait sur la croix, lui le Fils de l'homme. Et on pense aussi à ce qu'il sera, l'homme qui aura toute autorité, à qui Dieu a donné l'autorité, le Fils de l'homme qui jugera ce monde parce qu'il est le Fils de l'homme. Et puis, quand on lit la parabole, on s'aperçoit qu'il est aussi le maître de la maison. Il est celui vers qui ses esclaves s'approchent. Ils ne vont pas décider eux-mêmes de faire quoi que ce soit dans le champ, mais ils viennent lui poser la question « Seigneur ». C'est-à-dire « Maître, toi qui commandes, celui qui a l'autorité ». Et pour nous, est-ce que le Seigneur est vraiment notre Seigneur? Quand nous l'appelons Seigneur Jésus, cela a une signification et cela doit avoir une signification dans nos vies. Quand j'appelle, quand nous appelons, quand vous appelez le Seigneur, Seigneur, ça veut dire tu commandes dans ma vie. Et quand on regarde cette parabole, une chose qu'on n'a pas remarqué tout à l'heure, peut-être c'est au verset 28, il leur dit. Au verset 29, et il dit. Et au verset 30, je dirai au moissonneur. C'est celui qui a l'autorité. Il dit, il leur dit, je dirai au moissonneur. Et nous voyons dans l'explication qu'il y a donc toutes les clés de cette parabole, comme on vient de le voir, mais il y a le Fils de l'homme, celui qui aura le dernier mot celui qui enverra ses anges, celui qui va tout nettoyer et celui qui va placer en fin de compte les justes qui resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Comme le soleil dans le royaume de leur Père, dans une position céleste. Il y a eu tout le passage sur la terre, il y a eu ce que l'homme a fait de ce royaume des cieux, ce qui avait été laissé dans les mains de l'homme a été complètement gâté, mais quand le Seigneur reprend ses droits, alors tout est à la gloire de Dieu.
Il y a dans cette exposition de la parabole de l'ivraie tout ce que nous devons savoir. Samuel Prodon lui-même écrit dans ses saints entretiens sur cet évangile qu'il n'est plus nécessaire de divers commentaires, il n'est pas nécessaire de donner de nombreuses explications sur cette parabole du moment que le Seigneur Jésus l'expose et en donne l'explication. Disons-le passant, Samuel Prodon était un serviteur de Dieu qui est venu en Belgique à plus d'une reprise. Il a participé avec profit pour les frères et les sœurs aux études de la parole de Dieu à Paturin et il a connu une très belle communion avec un frère du pays, Josué Goret. Samuel Prodon nous a laissé donc, entre autres écrits, cette étude des évangiles, ces saints entretiens sur les quatre évangiles, comme du reste sur les actes des apôtres, véritablement une œuvre, parlons à la manière des hommes, une œuvre monumentale, une œuvre qui fait autorité quant à l'enseignement de la pensée de Dieu, par le moyen de ces entretiens, les saints entretiens sur les évangiles. Ainsi donc, ce frère, serviteur du Seigneur éminemment doué, a pu dire qu'il n'est pas nécessaire de commenter beaucoup une telle parabole du moment que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui en donne l'interprétation. Et le Seigneur dit, celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Un frère nous a parlé de ces deux passages où il est dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Ici, il nous est dit que la bonne semence, que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, d'une part, c'est la parole de Dieu. Et d'autre part, ce sont les effets de cette parole qui est reçue et qui fait de ceux qui reçoivent cette parole, qui en fait des fils du royaume. Ils sont les fils du royaume, ils sont des sujets de ce royaume, ils reconnaissent l'autorité de Dieu et se soumettent à ses divers commandements. Nous employons le mot « commandement » qui peut peut-être froisser quelques oreilles parmi nous. Il est bien entendu pas question des commandements de la loi du Sinaï, mais la parole de Dieu parle quand même de commandement en rapport avec l'économie de la grâce. Le Seigneur Jésus l'a dit bien des fois, et cela par la plume de l'apôtre Jean, soit dans son évangile, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime réellement. Veux-tu m'aimer? Garde mes commandements. Sans obéissance, il n'y a pas de réel amour pour le Seigneur. Et alors, le même apôtre dit dans sa première épître que ces commandements ne sont pas pénibles. Voilà le contraste avec les commandements de la loi du Sinaï. Les commandements de la loi du Sinaï étaient des commandements impossibles à réaliser, à garder, en tout cas pas d'une manière fidèle. C'était des commandements extrêmement précis et dont la négligence exigeait la mort du transgresseur. Mais voici, il y a des commandements dans l'économie de la loi, ils appartiennent à cette économie, et l'apôtre Jean vient nous dire que tels commandements ne sont pas pénibles, précisément parce que ce sont des commandements appartenant à l'économie de la grâce, et commandements ne peuvent pas être autrement que des commandements pas pénibles. Et l'apôtre peut ajouter que c'est ici l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour pour Dieu, l'amour que nous manifesterons pour Dieu en lui obéissant, en gardant ses commandements, les commandements qui ne sont pas pénibles. Il est ajouté encore, selon le Seigneur lui-même, livrés, ce sont les fils du méchant, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas seulement du mauvais travail, des fausses doctrines, des éléments, disons des messages corrupteurs, délétères, destructeurs, mais ce sont les agents, les individus eux-mêmes qui propagent de telles doctrines. Voilà ce qu'est livré. Livré, et ce sont les fils du méchant, et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Toute cette activité délétère, destructrice, ne peut venir que du diable. Et la moisson, c'est la consommation du siècle. Et les moissonneurs sont des anges. Les moissonneurs sont des anges, ne sont pas des hommes. C'est même pas le fils de l'homme lui-même, encore moins des hommes, ce sont des anges. Le livre de l'Apocalypse nous le montre d'une façon évidente. Nous citons un passage au chapitre 16e du livre de l'Apocalypse, le chapitre des sept scioles, des sept coupes de la colère de Dieu. Et il nous a dit ceci, chapitre 16, au premier verset, « Et jouis une grande voix venant du temple, disant aux sept anges, allez, et versez sur la terre les sept coupes du courroux de Dieu. » Qui sont donc ceux qui vont verser sur la terre les sept coupes du courroux de Dieu? Ce sont les anges, sept anges, et alors le courroux de Dieu sera consommé. Remarquons cet impératif, chers amis, qui a quelque chose à nous dire. Il est dit aux sept anges, allez, et versez sur la terre les sept coupes du courroux de Dieu. On ne peut pas s'empêcher de comparer cet impératif avec celui qui est donné par le Seigneur Jésus tout à la fin de son ministère, au moment où il va quitter ses disciples, juste avant de leur dire cette promesse remarquable, « Or moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » À la fin de notre évangile, les derniers versets de Matthieu 28 nous disent ceci, « Le Seigneur Jésus s'est approché d'eux, il leur a parlé, disant, « Toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est un passage que nos frères ont cité plusieurs fois durant ces réunions. Peut-être est-il indiqué d'insister sur ce fait que le Seigneur Jésus est mort, il a accompli l'œuvre de l'expiation, il est ressuscité, cette œuvre est absolument parfaite, reconnue et déclarée comme telle par Dieu lui-même. En retour d'une telle œuvre accomplie, alors toute autorité est donnée au Seigneur. Le Seigneur, avant de quitter ses disciples, vient leur dire ceci, « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Une telle parole, le Seigneur Jésus l'a pas dite avant l'œuvre de la croix, avant qu'il meure. C'est une fois qu'il est ressuscité qu'il dit ceci, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, et puis alors l'ordre de partir pour servir est donné. Et nous avons cet impératif, allez donc, et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, allez donc. Voilà l'impératif de la grâce. Le Seigneur Jésus envoie ses disciples, ses serviteurs, ses collaborateurs à une telle heure, l'heure de la grâce. Il leur dit « Allez donc ». C'est l'impératif d'une économie nouvelle, l'économie de la grâce. Il envoie ses serviteurs « Allez jusqu'au bout de la terre, parmi toutes les nations. Allez, le baptême est mentionné d'abord. » Et ensuite, l'obéissance au commandement donné par le Seigneur. Allez donc. Tandis qu'alors, dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, de nouveau le même impératif, allez, mais un impératif pour les anges et pour l'exécution des saints jugements de Dieu. Ici, la grâce. Allez, parlez de la grâce à toutes les nations, jusqu'au bout de la terre. Allez donc. Mais dans le chapitre 16, alors, c'est le même impératif, mais c'est un tout autre but. Et c'est à l'encontre de quiconque n'aura pas reçu la grâce, l'amour de la vérité pour être sauvé. C'est alors la colère de Dieu qui éclate. Et il est dit aux anges, à ces sept anges, allez, et versez sur la terre les fioles, les coupes de la colère de Dieu. Et ainsi le courroux, le juste courroux de Dieu sera consommé. Est-ce qu'il n'y a pas là, chers amis, un contraste entre ces deux passages, Matthieu 28 et Apocalypse 16, est-ce qu'il n'y a pas là un contraste qui devrait nous pousser à annoncer l'Évangile? Il y a là comme un sujet, une véritable substance de l'Évangile annoncé. D'une part, des instruments dans la main de Dieu pour annoncer cet Évangile, afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Et puis d'autre part, si l'on ne veut pas être sauvé par l'amour de la vérité, la juste colère de Dieu. Une chose, l'intervention des anges dans l'exécution des saints jugements de Dieu. Les moissonneurs sont des anges. La moisson, c'est la consommation du siècle. Le siècle ou le monde, c'est un même mot dans le texte original, le cosmos, le monde ou le siècle. Eh bien, la fin de, il est dit ici, il en sera de même à la consommation du siècle. Il y a eu un siècle, le siècle de la loi, où l'homme a été mis à l'épreuve. Il était pleinement démontré que l'homme était incapable de faire la volonté de Dieu. Il y a le siècle actuel, qui est le siècle de ce monde, et qui est appelé dans l'Épître aux Galates un siècle d'où, par la grâce de Dieu, nous avons été rachetés. C'est le présent siècle mauvais. Et dans ce siècle, alors, nous avons à vivre à la gloire de Dieu, selon les exhortations de l'apôtre Paul à son bien-aimé enfant Tite. Et puis, il y a le siècle à venir. L'Épître aux Hébreux nous parle du siècle à venir, qui est le siècle de la gloire, qui est en fait le millénium. Il est parlé de la consommation du siècle, ce monde va finir. Le présent siècle va finir. Le siècle de la loi, proprement parlé, a pris fin. Il a pris fin avec l'œuvre de notre Seigneur bien-aimé. Le présent siècle va prendre fin, alors aura lieu ce qui est appelé ici la consommation, l'exercice des saints jugements de Dieu. Il en sera de même à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges et cueilleront son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils jetteront dans la fournaise de feu. Ils les jetteront, ces fils du méchant, ils seront jetés dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de Dieu. Donc, est-ce qu'il n'est pas remarquable, chers amis, sans vouloir toujours trouver le chiffre 7, mais nous aimons le chiffre 7, le chrétien aime ce chiffre, il l'aime plus que les autres chiffres, il aime ce chiffre 7, mais il est très réel que cette solennelle déclaration là seront les pleurs et les graissements de dents, sous-entendu qu'ils ne prendront pas fin. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Eh bien, cette expression, chers amis, se trouve 7 fois dans la parole. 7 fois. 6 fois dans le seul évangile selon Matthieu et 1 fois dans l'évangile selon Luc. Pas dans l'évangile selon Marc, encore moins dans l'évangile selon Jean. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 13, nous avons cette expression. Puis alors, au chapitre 8 de Matthieu, 2 fois dans notre chapitre, nous venons de l'entendre, et puis dans les chapitres 20, 22 et 24. Nous avons cette expression concernant les grincements de dents, les pleurs et les grincements de dents. Il y a quelque chose de solennel, dans cette septuple mention de ces châtiments à venir qui ne connaîtront pas de fin, exprimés par ces mots que tout le monde comprend, les pleurs et les grincements de dents. Ce sera là la part des fils du méchant, comme il est dit ici, livré, ce sont les fils du méchant, ce sera là leur part. Tandis que la part de ceux qui ont mis leur confiance simplement, humblement dans le Seigneur pour être sauvés, pour avoir la vie et la vie pour l'éternité, eux seront assemblés dans les greniers célestes, comme il est dit plus loin dans ce chapitre, dans le royaume de notre Père, c'est-à-dire dans la partie céleste de ce royaume qui occupe nos pensées présentement.
Quelques faits essentiels rapidement rappelés. C'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. Ce n'est pas le Messie. Ce n'est pas le Fils de Dieu, tout en étant le Messie, le Fils de Dieu. Mais le Fils de l'homme est un titre nouveau que le Seigneur possède en raison du fait qu'il a été rejeté comme Messie et comme Fils de Dieu dans le psaume 2. Ses droits qui n'ont pas été abrogés se déploient dans un titre nouveau, le Fils de l'homme. Non pas qu'il y ait une paternité quelconque du côté de l'homme, mais s'apparentant à l'homme, prenant la nature de l'homme sans péché, afin que Dieu puisse faire hériter l'homme à travers lui, le Fils de l'homme, de tout ce qu'il a conçu depuis les temps éternels. Et sur la base de la mort et de la résurrection de Christ, au-delà du péché qui a été aboli, au-delà de l'œuvre sur laquelle Dieu s'appuie pour accomplir tout son propos. C'est le Fils de l'homme qui sème la semence, c'est-à-dire qu'il a envoyé ses disciples après sa résurrection, lorsque nous le voyons dans l'Évangile selon Luc et dans le livre des Actes. Pas comme le Messie, mais comme le Fils de l'homme. C'est un titre nouveau que le Seigneur possède en vertu de son exaltation et qui sera manifesté tout à l'heure dans tout l'éclat de sa gloire et là où il a été humilié, c'est-à-dire à la porte de Jérusalem. C'est là que le Fils de l'homme va manifester sa gloire. Alors, le Fils de l'homme sème la semence. Nous venons de l'entendre, c'est lui aussi qui exerce le jugement. Et nous avons un verset clé dans l'Évangile selon Jean pour nous dire cela. Dans le chapitre 5, remarquons ce que nous avons là. L'heure vient que, au verset 25, elle est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ensuite, au verset 27, quant aux incrédules, il lui a donné autorité de juger. Dieu lui a donné cette autorité de juger aussi parce qu'il est Fils de l'homme. C'est comme Fils de l'homme qu'il sème la semence, mais c'est aussi comme Fils de l'homme qu'il exerce le jugement. C'est un titre qui se trouve environ 80 fois dans les évangiles et que nous ne retrouvons que 3 fois dans le reste du Nouveau Testament. Une fois dans l'Épître aux Éphésiens, en relation avec l'épouse que Dieu lui donne à la suite de ses souffrances et de son exaltation, ce chef de toutes choses, Dieu le donne à l'Église avec laquelle il forme une plénitude, l'Église étant ce qui complète Christ, formant un tout, la tête glorifiée au ciel avec son Église sur la terre. Nous avons une autre citation dans le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, en relation avec sa gloire et son exaltation, et le jugement qu'il exercera plus tard, et enfin dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, montrant que ces deux gloires associées du Fils de Dieu dans le chapitre 1er et du Fils de l'homme dans le chapitre 2 sont la base de qui donne la valeur infinie, insurpassable à l'œuvre de l'expiation accomplie et citée à la fin du chapitre 2. Ensuite, encore un mot, dans le livre des Actes, nous avons une belle illustration, semble-t-il, de ce fait qu'il est à la fois le sauveur et qu'il est le juge. C'est comme Fils de l'homme qu'il sème la semence, c'est comme Fils de l'homme qu'il va exercer le jugement. Et nous trouvons cela dans le discours de Pierre, et il y a d'autres passages également, mais nous citons le passage du livre des Actes au chapitre 10, dans le sixième discours de l'apôtre Pierre, au verset 36, Pierre s'adresse à Corneille, à tous ceux qui l'entendent, tous ceux qui sont assis autour de lui. Vous connaissez au verset 36 la parole que Dieu a envoyée aux fils d'Israël, annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Donc la bonne nouvelle de la paix a été annoncée par Jésus-Christ. Et ensuite, par les apôtres, dont la parole est confirmée par les miracles, début de l'Épître aux Hébreux. Mais nous lisons la parole que Dieu a envoyée aux fils d'Israël annonçant la bonne nouvelle de la paix, par Jésus-Christ. Fin du paragraphe, verset 43, « Mais tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui, reçoit la rémission des péchés. » C'est toujours la même vérité. Mais au verset 42, Pierre a reçu ce commandement d'attester que c'est lui par lequel la paix est prêchée aujourd'hui, que c'est lui, remarquons l'expression verset 42, qui est établi de Dieu, juge des vivants et des morts. Le Fils de l'homme sème la semence, c'est le Fils de l'homme qui exerce le jugement. C'est par lui que la paix est annoncée, mais c'est lui qui est établi juge des vivants et des morts, et Dieu lui a donné l'autorité de juger parce qu'il est le Fils de l'homme, parce qu'il a été cet homme dans ce monde parfait, qui a souffert, qui est entré dans la mort, mais que Dieu a ressuscité et à qui il a donné toute autorité, dont celle d'exercer le jugement. Encore un mot, dans bien des versions, et sans doute la nôtre fait exception, si ce n'est pas la seule, nous avons au lieu de la consommation du siècle, la fin du monde. Mais notre frère Jules Kim, quand il était parmi nous, nous nous souvenons qu'il a quelquefois parlé de ce passage en montrant qu'il ne s'agit pas de la fin du monde. Dans le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu que nous avons ouvert ici, les disciples demandent au Seigneur, dis-nous, ce sont les questions qui sont relatives à ce que le Seigneur a dit du jugement de Jérusalem et de la maison dans laquelle qu'il leur laisse déserte. Et en ayant annoncé qu'il ne resterait pas pierre sur pierre de ce bâtiment prestigieux qui était le temple, et les disciples demandent au Seigneur, dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue et, disent les autres versions générales, et de la fin du monde, mais c'est de la consommation du siècle. Et nous n'avons pas besoin de chercher en dehors de notre Bible pour en trouver une explication très claire donnée par le traducteur et bien significative, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Nous ouvrons l'Épître aux Hébreux rapidement. Nous lisons au début de l'Épître, et c'est une note qui se trouve au chapitre 2, au verset 5, « Car ce n'est point aux anges que Dieu a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons. » L'expression a été citée par notre frère tout à l'heure. Et vous voyez la note D qui nous dit « Le siècle que le Messie devait introduire. » Le monde habité à venir, un monde en ordre, sous l'autorité de Christ, dans lequel Israël aura la place qui lui revient, et les nations lui seront assujetties. Le monde habité à venir, en opposition avec le monde aujourd'hui qui est un immense chaos, qui est plongé dans le plus grand des désordres. Mais demain, le monde sera soumis à Christ, le royaume du monde de notre Seigneur Jésus-Christ lui sera donné, il entrera en pleine possession de cet héritage, et l'Apocalypse nous dit, c'est un sujet de joie extraordinaire, et c'est le verset clé de l'Apocalypse dans le chapitre 11, on ne va pas plus loin dans le cours des événements prophétiques, le royaume du monde de notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé. C'est là l'aboutissement du plan de Dieu. À travers toutes les vicissitudes d'aujourd'hui, Dieu n'oublie pas ce but qu'il a devant lui. Nous lisons donc « Le monde habité à venir » et le traducteur m'instruit et particulièrement intelligent, nous dit à la note D, le siècle que le Messie devait introduire, le monde habité à venir, en contraste avec ce qui, pour le juif, était ce siècle-ci, le siècle dans lequel le Seigneur parlait, qui était toujours le siècle de la loi, qui était donc ce siècle-ci, vous remarquez la perfection de la phrase, ce qui pour le juif était ce siècle-ci, le siècle de la loi. Sans doute, Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Ce régime de la loi est terminé. Mais on peut encore dire qu'il y a un petit espace de temps qui s'ajoute. Après la parenthèse de l'Église, ce siècle de la loi reprendra pour un très court instant pour connaître précisément ce qui est dans notre chapitre ici, la consommation de ce siècle, la fin de ce siècle où toute autorité sera balayée de la scène, où le Seigneur mettra ses ennemis comme marchepied de ses pieds, et où enfin le siècle des siècles commencera, le siècle du monde à venir, le siècle du règne millénaire, lorsque enfin la création sera franchie de la domination et de la servitude du péché, pour connaître l'accomplissement de ce que Dieu avait dans ses plans pour la terre, la bénédiction, la gloire de son peuple, et cette bénédiction qui s'étendra à toutes les nations. Aujourd'hui, c'est le présent siècle mauvais, la parenthèse de l'Église, la chrétienté, le royaume des cieux, tout cela s'apparente. C'est le présent siècle mauvais, mais qui va prendre fin lorsque le Seigneur va exercer comme fils de l'homme les jugements contre tout ce qui s'oppose à l'établissement de sa domination.
En distinguant pas bien la différence entre le royaume et l'assemblée, on a fait deux grandes erreurs. En oubliant ce que le Seigneur a enseigné ici, au verset 30, laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. On en a déjà parlé ce matin que dans le temps de la Réformation, l'Église catholique romaine n'a pas tenu compte avec cet enseignement du Seigneur Jésus. On a voulu arracher, livrer, juger les hérétiques et on a brûlé en effet de vrais enfants de Dieu. Les deux premiers martyrs dans le temps de la Réformation étaient ceux qui ont été brûlés au Grand Marché à Bruxelles. Et aussi en France, on a souffert beaucoup la nuit de Bartholomé, l'histoire de Huguenot. On sait bien ce qu'a fait cette Église qui a tué beaucoup de chers enfants de Dieu qui étaient sauvés par grâce, par la foi, sans les œuvres, se tenant à la parole de Dieu, en aimant la parole de Dieu. Quel terrible péché! Sans tenir compte de laisser les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Nous n'avons pas à arracher, livrer, c'est pour le temps de la fin. De l'autre côté, on dit dans l'assemblée, dans l'église, il ne faut pas juger le méchant. Laissez les deux croître ensemble. C'est une autre grande erreur. Dans l'assemblée, il faut juger le mort, ôter le méchant au milieu de vous. Mais c'est sur le terrain de l'assemblée. Là, il faut juger le mort, parce que le Seigneur ne peut pas être là, au milieu où on laisse subsister le mort. Il faut juger le mort. Il faut d'abord naturellement faire tout ce qu'il peut pour le frère ou la sœur qui a péché, afin qu'il se repente. Mais quand on ne veut pas se séparer de son mal, il faut ôter le méchant du milieu des chrétiens. Mais sur le terrain du royaume, il ne faut pas faire ça. C'est pour la fin du siècle quand les anges le feront sans faire des fautes. l'homme a toujours manqué pour faire ce que Dieu veut. Voyons bien qu'on peut faire défaut à deux égards. L'une, c'est donc vouloir tuer les hérétiques. L'autre, c'est laisser subsister le mal dans l'assemblée. Il faut voir le Seigneur et sa gloire. Et les choses sont tout simples.
De ce chapitre qui nous parle donc de ce qui est cher au cœur de Dieu. Il y a le trésor dans le champ, il y a la perle de très grand prix, et puis il y a les bons poissons qui sont recueillis par la Seine ou le filet selon cette dernière parabole. Nous lisons donc au verset 44e, « Encore le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché, et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. » On est heureux d'entendre ce terme, cet adverbe au verset 44 encore, que l'on retrouve pour la deuxième parabole au verset 45 encore, et enfin pour la dernière parabole au verset 47 encore. Le royaume des cieux est semblable à une Seine jetée dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes. Encore, c'est comme si l'Esprit de Dieu nous disait par le Seigneur Jésus, j'ai autre chose à vous dire. Je vous ai parlé de choses pénibles, de cette détérioration du royaume des cieux par l'introduction de toutes sortes de mal. Eh bien, je ne veux pas terminer mon enseignement sur ces pénibles considérations. Je veux vous parler d'un autre sujet, plus édifiant, plus réjouissant, qui en fait exalte nos cœurs dans la reconnaissance et l'adoration en présence du don que Dieu a fait pour qu'il y ait un tel trésor, une telle perle de grand prix. D'où le encore. Trois fois encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Ce trésor caché dans un champ, c'est l'Église ou l'Assemblée. C'est le peuple nouveau qui va apparaître, qui va naître après le peuple terrestre de Dieu, le peuple d'Israël. Il est aussi comparé, Dieu a aimé son peuple, chers amis, son peuple terrestre, il l'a aimé. Et plusieurs fois, nous trouvons même le mot « trésor » en rapport avec Israël, pratiquement la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament avec le prophète Malachie. Ils seront mon trésor particulier. Nous avons ce mot « trésor » pour parler du prix que ont les fidèles pour le cœur de Dieu, en ce temps-là, pour le cœur de Jéhovah. Lisons simplement le livre du Deutéronome. Combien de fois il nous est parlé de l'amour de Jéhovah, de l'Éternel pour son peuple dans le seul livre du Deutéronome. C'est même un sujet de toute édification, chers amis. Un sujet de toute édification. Lire le livre du Deutéronome dans la pensée d'y voir cette déclaration souvent répétée de l'amour de Dieu pour son peuple. Certainement, le peuple d'Israël a été pour le cœur de Dieu comme un trésor. Le psaume 135 le dit, Malachie 3 le dit également et d'autres passages encore. Mais maintenant, Israël est rejeté. Israël a rejeté celui qui est le Fils de l'homme. Elle l'a rejeté. Il l'a rejeté. Israël lui-même est mis de côté. Le Seigneur est sorti de la maison. Il a quitté cette maison. Elle est vide. Il a quitté cette maison pour se tourner vers la mer, vers les nations, pour être ce semeur qui répand pour le cœur de quelqu'un que ce soit, pas seulement pour les individus d'un peuple mis à part, d'un peuple privilégié, ce peuple privilégié est rejeté. Mais pour le peuple, un peuple nouveau va naître, le peuple céleste de Dieu, c'est-à-dire l'Assemblée. Alors le Seigneur de dire encore, Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché. Et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Est-ce que ces paroles, chers amis, ne font pas ressortir l'immense abaissement de notre Seigneur qui s'est dépouillé de tout ce qu'il avait, tout, il est dit ici, il a vendu, il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ-là. Ce champ-là, c'est le monde. Le Seigneur Jésus, à la suite de l'œuvre de l'expiation, est l'héritier du monde. Il hérite l'héritier du monde. Le monde lui appartient. Ce monde dont Satan était l'usurpateur, il appartient au Seigneur. Et le Seigneur a fait le sacrifice de tout pour avoir ce champ où se trouvait ce trésor caché, ce trésor qu'est l'Assemblée. Et l'Assemblée est un trésor, chers amis, pour le cœur de Dieu, pour le cœur de notre Seigneur. Quelle assemblée? Qu'est-ce que l'assemblée pour nous-mêmes? Une question à laquelle il nous faut répondre, chers frères et sœurs. Est-ce que nous aimons l'assemblée? Tout d'abord l'assemblée locale, l'assemblée à laquelle nous appartenons, et puis les assemblées des environs, et puis toutes les assemblées. Aimons-nous ainsi le témoignage du Seigneur? Aimons-nous l'assemblée, cette assemblée qui est si chère au cœur de Dieu, qui est comparée à un trésor qui est caché dans un champ. Le Seigneur a fait le sacrifice de tout quant à lui-même. Il a tout vendu pour avoir ce champ-là où il y avait le trésor caché. Le trésor, c'est l'assemblée, chers amis. Et comme elle est pour le cœur de Dieu un trésor, puisse-t-elle être aussi pour nous, pour notre cœur, ce trésor qu'elle est pour le cœur de notre Seigneur.
Dans la parabole que nous avons devant nous maintenant, c'est celle-ci. Donc, on reviendra sur le trésor caché, sur le fait que l'homme l'a trouvé et qui, pour le posséder, ce trésor, de la joie qu'il en a, il s'en va. Est-ce qu'on s'est arrêté? S'est-on arrêté sur l'expression « il s'en va » Et nous la retrouvons dans la parabole de la belle perle, le marchand qui cherche de belles perles, ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla. Les deux expressions méritent que nous nous arrêtions un instant. Il s'en alla. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire? Eh bien, dans l'Ancien Testament, au livre de Lévitique, au chapitre 16, sans faire un long développement, nous avons ce qui est central, ce qui est capital dans les cinq livres de Moïse. Le chapitre 16 du livre du Lévitique, qui nous parle du grand jour des propitiations, est le chapitre central des cinq livres de Moïse. Et dans ce chapitre 16 du livre du Lévitique, nous avons la croix dressée devant nous. Et c'est en fait sur ce chapitre, a-t-on dit, que s'articule d'ailleurs l'enseignement fondamental, principal de l'Épître aux Hébreux. Alors, lors de ce grand jour des propitiations, le dixième jour du septième mois, des sacrifices étaient offerts. Et entre autres, il y avait deux boucs. Il y avait un bouc pour l'Éternel et un bouc pour le peuple. D'abord, les droits de Dieu. La mort de Christ a restitué à Dieu dans une mesure infinie la gloire que l'homme lui avait dérobée dans le champ de la création. Ce que Dieu a récolté de gloire, dira JND, ce ne sont pas peut-être les mêmes mots, mais c'est à peu près la pensée que nous essayons de rendre aussi fidèlement que possible. Dieu a été infiniment plus glorifié par l'œuvre de son Fils dans la rédemption, comme dans l'Holocauste qui était offert tout entier pour Dieu. Dieu a été infiniment plus glorifié par l'œuvre de Christ qu'il n'a été déshonoré par l'homme. Christ a réparé entièrement tout ce qui avait été avili de la gloire de Dieu par le péché de l'homme. Alors, pour montrer cela, il y a d'abord un bouc pour l'Éternel, dont le sang était porté à l'intérieur du voile sur le propitiatoire. D'abord les doigts de Dieu. Ensuite, pour faire court, il y avait un deuxième bouc qui était, lui, envoyé au désert et sur lequel le souverain sacrificateur confessait toutes les fautes, toutes les transgressions, tous les péchés du peuple qui avaient été donc qui avaient eu lieu pendant une année. Et pendant une année, Dieu prenait à nouveau patience en raison de ce sacrifice montré dans les deux boucs, un bouc pour l'Éternel et un bouc pour le peuple. Mais le bouc qui est indiqué pour le peuple porte un nom particulier. C'est le bouc Azazel, disons-nous, au verset 8 de Lévitique 16. Et si vous voulez voir dans la note, le traducteur nous a dit « le bouc qui s'en va ». Le bouc qui s'en va. Et dans le verset 21 et suivant, Aaron posait ses deux mains sur la tête du bouc vivant, le bouc qui s'en va, et il confessait toutes les iniquités, toutes les transgressions, tous les péchés, et il les mettait sur la tête du bouc, et il l'envoyait au désert. Et le bouc, donc, s'en allait au désert, on ne pouvait plus jamais le retrouver, et sur lui, sur sa tête, toutes les fautes du peuple avaient été confessées. D'une part, le rétablissement de la gloire de Dieu, d'autre part, ce qui pesait sur la conscience du peuple, tous les péchés commis étaient imputés à ce bouc Azazel, le bouc qui s'en va au désert. Et dans l'évangile selon Luc, voilà l'explication qui nous ramène au fait que le Seigneur est montré comme le marchand ou comme l'homme qui s'en va pour acheter le trésor, pour obtenir la perle de grand prix. Et dans l'évangile selon Luc au chapitre 22, nous retrouvons la même expression. Et nous pensons qu'il y a une liaison touchante à remarquer entre le bouc qui s'en va, type du Seigneur dans le chapitre 16 du livre de Lévitique, et la réalité dans l'évangile selon Luc au chapitre 22, comme dans Matthieu 13. Et dans Luc 22, nous lisons au verset 22, facile à retenir, 2 fois 22, « Et le Fils de l'homme s'en va, le bouc qui s'en va, le bouc Azazel. Et le Seigneur s'en va vers la croix, et il dit, « Et le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé, en sous-entendu, selon ce qui est écrit déjà dans la loi de Moïse, au chapitre 16 du livre de Lévitique, le bouc Azazel qui s'en va, chargé de tous les péchés d'Israël.
Ce trésor caché dans un champ est précieux pour celui qui en connaît l'existence. Nous fait penser au début du psaume 16 et nous touche infiniment quand nous pensons que c'est ce que notre Seigneur a de plus précieux sur la terre. J'ai dit des saints et des excellents qui sont sur la terre, en eux sont toutes mes délices. Le Seigneur n'a rien de plus précieux aujourd'hui sur la terre que les siens, ceux qu'il a qui a si grand prix. Et ce chant nous fait penser à celui dont il est question au chapitre 25, le chant le plus cher du monde, le chant payé avec le prix du sang, le prix de son sang. C'est le nom qui lui est donné que nous trouvons dans le premier chapitre du livre des Actes à Seldama. Aujourd'hui, ceux qui vont en Israël peuvent voir au sud de Jérusalem, juste dans la vallée du Hinnon, au bas de la vallée, un écriteau vert avec l'inscription « Aseldama ». Et en plaçant cet écriteau, ceux qui l'ont fait ont rappelé leur propre condamnation. C'est le champ du sang. C'est là ce qui a été acquis et qui nous semble être l'image du tout, n'est-ce pas, ce champ représentant le monde tout entier est payé par le sang qui a été versé à la croix. Et c'est le lieu Effectivement, nous connaissons toute l'histoire et nous pouvons rapprocher le premier chapitre des Actes de ce qui nous est dit là. Mais c'est le seul lieu dans les environs de Jérusalem où on trouve de l'argile. Effectivement, on montre encore aujourd'hui cet endroit, il est désigné, et l'argile pour le potier, c'est la raison d'être d'un champ pour un potier. À quoi un potier emploie-t-il un champ sinon pour y prendre son argile? Eh bien, il y a encore là, aujourd'hui, la désignation, ce champ, acheté à si grand prix, le sang versé, le sang du Fils de Dieu qui a acquis pour lui ce trésor qui lui appartient maintenant, qui est à lui pour toujours. Et si lui a son trésor sur la terre, s'il a ses bien-aimés qui sont, comme il dit dans le psaume 7, ses délices, est-ce que nous avons notre trésor dans le ciel, chers amis, comme le Seigneur le dira au jeune homme riche? Vends tout ce que tu as, toi aussi tu as un prix à payer, mais alors en contrepartie de ce prix, ce que tu acquiers, c'est ce qui a un prix infini, c'est un trésor dans le ciel. Et ne pensons pas à une récompense céleste, mais pensons à la personne qui est là-haut et qui est le trésor du cœur du croyant.
Seulement deux mots, que c'est une parabole. C'est une belle expression, car on a payé le champ avec le prix du sang. Et le champ qui s'appelle Aceldama, c'est le monde actuel, dans lequel le sang n'a pas cessé de couler depuis ce moment-là. Et d'autre part, il servait de sépulture aux étrangers. Et ce monde, champ de sang, Aceldama, n'est-il pas, disait l'auteur de cette expression, la parabole d'Aceldama, ce champ, le monde dans lequel le Christ a souffert, n'a-t-il pas fait de nous, par sa mort, des étrangers? Et Aceldama, c'était le champ dans lequel on allait enterrer les étrangers que nous sommes dans ce monde, comparé à Aceldama.
Et ce trésor est pour le cœur de cet homme. Et on voit de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a. La joie qu'il en a, c'était la joie de son cœur. Et nous pensons à ce que nous avons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte. Il a enduré cela à cause de la joie qui était devant lui. La joie de posséder ce trésor qui pour lui est un trésor particulier. La joie de nous posséder.
Seconde épître de Pierre, chapitre 2. Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront fictivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés. En rapport avec ce que notre frère vient de dire, le Seigneur a acheté le monde, non seulement les croyants, mais aussi les incrédules, le monde entier. Et c'est ce que Jean nous dit dans sa première épître, son sang est la propitiation pour nos péchés, non seulement, dit-il, pour le nôtre, mais aussi pour le monde entier. Or, nous voyons ici, incontestablement, quelqu'un qui n'a pas la vie. Ce faux docteur qui introduit furtivement des sectes, il renie le maître qui l'a acheté. Et il y en a donc qui se moqueront, si on peut dire, de la rançon qui a été payée, qui estimeront profane le sang de l'Alliance, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, tandis qu'il y en aura d'autres. Et nous pensons bien que nous sommes tous de ceux-là, qui chanteront avec bonheur et éternellement, tu nous as achetés pour Dieu par ton sang.
Le Seigneur a droit à la possession du monde sous trois titres. Donc le frère vient de rappeler, évidemment, que le monde a été acheté. Et les faux prophètes qui portent cette livrée du croyant, du chrétien, refusent l'autorité à laquelle le Seigneur a droit sur eux. Renient le maître qui les a achetés, puisqu'ils se présentent comme des docteurs pour enseigner dans le christianisme, eh bien, ils mettent, ils foulent aux pieds cette autorité que le Seigneur a sur eux. Et le Seigneur attendait à droit à l'autorité suprême au monde sous trois caractères différents. Et nous les avons, primo, comme héritier. Il est le fils, il est l'héritier. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, nous dit que Dieu nous a parlé dans le fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, comme Isaac était l'héritier d'Abraham, et Éliezer rendait ce témoignage qu'Abraham avait tout donné ce qu'il possédait à son fils, Christ, le vrai Isaac, est l'héritier de toutes choses parce qu'il est le fils, Hébreux 1. Il a droit à la possession du monde sous un autre caractère, parce qu'il l'a créé. Colossiens, chapitre 1er, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre. Toutes choses ont été créées par lui, nous avons sauté quelques phrases pour écourter, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, parce qu'il est l'héritier, il possède de plein droit toutes choses, l'autorité sur le cosmos, sur le monde entier. Deuxièmement, parce qu'il est le Créateur. Ensuite, parce qu'il est le Rédempteur. Comme fils de l'homme, nous avons dans le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, versets 5 à 9, la raison pour laquelle tout lui a été donné, tout est sous ses pieds, parce qu'il est le fils de l'homme qui a souffert et qui a racheté l'héritage que Dieu lui donne, qu'il possède sur un pied nouveau. Car ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons, mais c'est bien à celui qui est le Fils de l'homme, et nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Mais par les yeux de notre cœur, nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur comme Fils de l'homme à qui toutes choses ont été données. L'héritage qui est aux mains d'un usurpateur et qui n'a pas cessé sa domination bien que vaincu. Lors de la tentation, Satan a présenté tous les royaumes du monde à notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette autorité que je possède. Mais par sa mort, par sa résurrection, le Seigneur a racheté cet héritage aux mains d'un usurpateur. Et demain, nous en verrons les effets.
On a donc là le tableau du sacrifice infini de notre Seigneur, de ce qui est appelé ailleurs la pauvreté dans laquelle il a vécu. Le Seigneur Jésus a été par excellence le pauvre. Les psaumes en parlent prophétiquement, le livre des Proverbes également, et enfin le livre de l'Ecclésiaste. Il nous présente cette personne du pauvre, de celui qui étant riche tout bien s'est appauvri. Il a vécu, dit l'apôtre, dans la pauvreté, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Il s'est appauvri, il a vécu dans la pauvreté, afin que nous soyons par cette pauvreté même enrichis. Et c'est ce que nous présentent ces deux paraboles d'une façon particulière. Le Seigneur vendant tout, renonçant à tout pour avoir soit ce trésor, soit cette perle de grand prix. Nous avons cité furtivement le psaume 135. Comme plusieurs amis prennent quelques notes, nous aimerions le citer exactement en rapport alors avec Israël. Nous voudrions pas que nous sous-estimions l'affection de Jéhovah pour son peuple terrestre, avec lequel, à la fin des jours, il reprendra les relations, même si présentement il est rejeté. Alors, au psaume 135, nous avons cette parole. Louez Jah, car l'Éternel est bon. Chantez des cantiques à la gloire de son nom, car il est agréable. Pourquoi ? Verset 4. Car Jah s'est choisi Jacob, Israël, pour son trésor particulier. Et le passage rappelé tout à l'heure, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Malachie, on voit combien les fidèles, au milieu de cette sombre génération, sont appréciés et aimés de Dieu. Il y a là une déclaration qui vient de Dieu lui-même. Un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Malachie 3, verset 17. Pour ceux qui pensent à son nom, ils seront à moi. Mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, précisément au jour que je ferai, une expression assez fréquente dans l'Ancien Testament, dans les écrits prophétiques, au jour que je ferai, c'est-à-dire au jour où Dieu devra intervenir en jugement à l'égard de cette nation rebelle, indocile, endurcie. Mais au milieu de cette nation, il y a les fidèles. Ils sont, ils seront mon trésor particulier. Alors, dans notre passage, nous pensons bien qu'il est question de l'assemblée, un trésor, le trésor pour le cœur du Seigneur, la perle de très grand prix. Au verset 47e, nous avons la dernière de ces six paraboles du royaume des cieux. Encore, dit le Seigneur, le royaume des cieux est semblable à une scène jetée dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes. Et quand elle fut pleine, ils la tirèrent sur le rivage. Et s'asseyant, ils mirent ensemble les bons dans des vaisseaux et jetèrent dehors les mauvais. Il en sera de même à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes, les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents, cette déclaration que nous avons pour la troisième fois dans cet évangile-là. Qu'est-ce donc que cette scène, jetée dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes? Est-ce que cela ne correspond pas à la prédication de l'Évangile annoncée dans le monde entier, jusqu'au bout de la terre habitée? N'est-ce pas là la prédication de l'Évangile? Alors, à l'ouïe d'un tel message, eh bien, il y en a qui écoutent, et il y en a qui reçoivent ce message de tout leur cœur, mais il y en a d'autres alors qui font fi d'un tel message. La scène est jetée, ou le filet est jeté dans la mer, et voici que les cœurs sont manifestés. Les uns reçoivent l'Évangile, les autres ne veulent pas en entendre parler. Alors de cela, eh bien, les pécheurs ne savent que faire, ils les jettent. Ils jettent les mauvais dehors, tandis qu'alors les bons poissons sont recueillis dans des vaisseaux. Et le Seigneur, au verset 49 et 50, donne l'interprétation de ce qui aura lieu alors au jour des saints jugements de Dieu. Ils mirent ensemble les bons dans les vaisseaux, ensemble, les croyants qui sont là, ensemble, qui sont unis et qui sont comme mis à l'abri, mis à part sous le regard de Dieu, ensemble avec celui qui les a sauvés, avec le Seigneur. Tandis qu'alors, au jour du jugement de Dieu, eh bien, il y aura cette séparation, les méchants séparés du milieu des justes, ils seront jetés dans la fournaise de feu. D'une part, les bons poissons dans les vaisseaux, recueillis, objet des soins du Seigneur, mis à part, et puis d'autre part alors, les mauvais poissons qui sont jetés dans la fournaise par les anges eux-mêmes, dans la fournaise de feu, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Alors le Seigneur de poser cette question du verset 51, Jésus leur dit, avez-vous compris toutes ces choses? Cette question nous est posée maintenant, chers amis, au terme de ces 5 réunions de lecture et d'étude de la parole de Dieu. Maintenant, c'est comme une question, une question finale, qui est posée par le Seigneur. Avez-vous compris ces choses? Alors la réponse est remarquable. Les disciples disent simplement, oui, Seigneur. Il leur dit, c'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. Du trésor de Dieu sont sorties des choses vieilles, c'est-à-dire les choses communiquées aux prophètes de l'ancienne alliance. Et les prophètes eux-mêmes les ont communiquées au peuple. Ce sont ces choses anciennes. Mais il y a des choses nouvelles, et les choses nouvelles sont mentionnées tout d'abord, ce que le Seigneur révélait. Ce que le Seigneur révélait, est-ce qu'allait être confirmé par ses serviteurs, les apôtres? Des vérités anciennes, l'Ancien Testament, disons, des choses nouvelles, tout d'abord, avant les choses vieilles, le sujet de la révélation chrétienne, voilà ce que le Seigneur peut dire. C'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux semblable à un maître de maison. Et c'est ce que Dieu, le maître, a révélé à ses prophètes. Ensuite, tout d'abord à ses disciples, ceux qui sont devenus les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, en rappelant ce qui avait été annoncé, communiqué aux prophètes de l'Ancien Testament. Chers amis, le Seigneur nous demande, avez-vous compris toutes ces choses que nous avons considérées durant ces 5 réunions, en lisant ce chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu? Avez-vous compris toutes ces choses? Qu'allons-nous répondre? Les disciples ont donné une très belle réponse. Très belle, très brève, mais combien belle dans sa précision. Ils lui disent, oui Seigneur, que le Seigneur nous donne à nous tous de revenir à de telles vérités au chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu pour que nous comprenions encore davantage et que nous puissions dire au Seigneur qui nous demande, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ces choses? Que nous puissions lui répondre alors, oui Seigneur, j'ai compris ce que tu m'enseignes par un tel chapitre.